Un rêve non interprété, c'est une lettre qui n'a pas été ouverte.
Je pense que Freud était un progrès par rapport à ce qui se disait avant lui. Et depuis Freud, il y a eu 120 ans de travaux sur le rêve. Donc voilà, la science, oui, elle progresse.
L'interprétation des rêves depuis Freud. Parution en langue allemande de l'interprétation du rêve. Les éditions vont se succéder, proposant chacune des révisions. La traduction en anglais de la 6e édition allemande enrichira encore la donne.
1936-1941.
Carl Gustav Jung, figure de la dissidence psychanalytique, tient son propre séminaire sur les rêves. Les processus inconscients à l'œuvre dans le rêve n'ont pas de rapport de nature avec la situation consciente qu'ils veulent cependant transformer.
1943.
Charlotte Bérat publie aux États-Unis, où elle s'est exilée, quelques-uns des rêves qu'elle avait recueillis en Allemagne nazie. Un régime de terreur ne peut pas ne pas déterminer les rêves de ses sujets.
1961.
Georges Devreux donne son ethnopsychiatrie des Mohaves, des Amérindiens des États-Unis. Pour les Mohaves, rien n'arrive qui n'ait déjà été rêvé par quelqu'un. Le rôle attribué au songe est toujours fonction de la culture d'appartenance.
1981.
Ah, le palais des rêves du romancier albanais Ismail Kadare, qui imagine un service de collecte des rêves organisé par un empire ottoman finissant qui, pour conjurer son déclin, voudrait mobiliser les rêves qui pourraient le revivifier.
1992.
Le neurologue lyonnais Michel Jouvet devient peu à peu onirologue. Il cherche en particulier à saisir les rêves dans le moment du sommeil paradoxal où ils sont particulièrement vigoureux. Il publie « Le sommeil et les rêves », Le château des songes et le grenier des rêves.
2018.
Encore un Lyonnais, Bernard Lahir. Il tente de construire une nouvelle théorie générale du rêve qui fait intervenir le plus possible de sciences sociales et humaines. Et en attendant mieux, il titre son premier volume « L'interprétation sociologique des rêves ». Le second, « La part rêvée », date de 2020.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Sachez que notre témoin numéro un, ce sera Bernard Lahir. Il ne peut pas ne pas croire, on l'a entendu, en un progrès dans l'interprétation des rêves. Depuis Freud, de nouveaux savoirs se sont sédimentés, traversés aussi de failles profondes, de débats et de combats. À tout seigneur, tout honneur, on va écouter en exergue le fondateur de la psychanalyse, dans une interview testamentaire de 1938.
J'ai découvert de nouvelles et importantes données à propos de l'inconscient dans la vie psychique. Le rôle des fortes envies instinctuelles, et ainsi de suite. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse. Une partie de la psychologie, ainsi qu'une nouvelle méthode de traitement des névroses. J'ai dû payer lourdement pour ce coup de chance. Les gens doutèrent de mes observations et trouvèrent mes théories douteuses. La résistance fut forte et incessante. Finalement, j'ai réussi à avoir des élèves et à construire une association internationale de psychanalyse. Mais la lutte n'est pas encore terminée.
But the struggle is not yet over.
Bon, ici, il ne s'agit pas d'entrer dans la lutte, juste dans une conversation commencée bien avant nous, Il ne s'agit pas non plus de jeter le discrédit sur la psychanalyse. Il y a eu assez de tentatives pour la remplacer. Ce que laisse entendre avec humour la série Anthérapie qui triomphe actuellement sur Arte. Les patients n'y cessent de vouloir se substituer au thérapeute, le sommant de raconter ses rêves à son tour.
Vous en faites, vous aussi ?
Des cauchemars ? Oui, bien sûr, comme tout le monde.
Et il se passe quoi dans les vôtres ?
Il y en a un qui revient souvent, à vrai dire, je le fais depuis que je suis enfant. Je suis sur une balançoire dans un jardin public, et soudain, j'entends ma mère m'appeler, je la vois pas, j'entends juste sa voix. C'est à peine audible, juste un murmure dans l'air. Alors j'essaie de descendre de la balançoire, mais j'y arrive pas. C'est absurde parce que le sol est quelques centimètres de mes pieds. Et ça m'est impossible. Et je continue à me balancer.
Vous pensez que ça signifie quoi pour vous ?
Peut-être que ça signifie que je suis effrayé à l'idée de décevoir ma mère. De pas être là pour elle, de pas répondre à ses attentes.
Vous avez déjà déçu votre mère ? Je veux dire en vrai.
J'espère pas. Mais sans doute. Mais c'est pas le sujet. Revenons à votre rêve.
Oui, c'est pas le sujet. Revenons-en à l'interprétation du rêve. Avec le rêve, on n'a pas affaire à une production aléatoire et désordonnée d'images, de sons, d'impressions, mais bien à une production qui a sa logique et qu'il est raisonnable de vouloir interpréter. Depuis Freud, peut-être le principal apport contemporain, eh bien c'est celui des neurosciences qui, depuis les années 1960, ont investi le champ du rêve au nom de la connaissance de plus en plus fine qu'elles ont du fonctionnement de notre cerveau. La psychanalyste Sabine Procoris, que nous avons déjà entendue dans notre premier dossier, note qu'il serait absurde de négliger les neurosciences.
C'est très intéressant, les neurosciences, je trouve. Parce que ça, d'ailleurs, Freud n'aurait certainement pas récusé ça, mais ça ne récuse pas non plus la dimension singulière et signifiante. Je pense que le fait qu'il y ait des... Tout ce que les neurosciences disent sur les neurones miroirs, toutes ces choses-là, c'est vraiment intéressant. Hein, mais ça rencontre certains éléments du freudisme, il me semble. Mais je vois pas pourquoi ce serait tout à fait... pour moi, c'est pas en opposition. Dans la mesure où je ne prends pas la psychanalyse comme une vision du monde général ou comme une explication globale, hein, mais comme une méthode de traitement de la souffrance psychique et comme une perspective sur l'humain en crise, et sur ce que c'est que la singularité. Voilà, sur ces trois points. En cela, le rêve m'intéresse comme ça.
En France, nous allons rester en France dans ce dossier. Nous avons eu, en matière de neurosciences, un précurseur en la personne du professeur Michel Jouvet. Il a voulu classer les différents stades du sommeil en privilégiant le sommeil paradoxal, qui représente peut-être 20% du temps de sommeil, mais qui s'avère le plus fécond pour le rêve.
Bien, le cerveau, probablement, a trois états principaux. L'éveil, où je suppose que nous sommes tous les deux maintenant, le sommeil, où nous entrerons tout à l'heure,
oui.
Et le sommeil va préparer à l'arrivée du troisième état, qui est le rêve. Mmh. Et le rêve, qui est un phénomène subjectif, qui intéresse beaucoup, dont le contenu intéresse beaucoup nos amis psychanalystes, a une traduction objective, c'est-à-dire que simplement en regardant quelqu'un dormir, on peut savoir à quel moment il va pénétrer dans le royaume des songes. C'est-à-dire que après une heure et demie de sommeil, la respiration qui est régulière va changer, va devenir irrégulière. La température de la peau, qui est en général chaude, va devenir froide. Et puis on va voir apparaître, les paupières vont s'entrouvrir et on va voir bouger les yeux dans tous les sens. Il va y avoir des petits mouvements des doigts. Et chez le sujet masculin, il va y avoir une érection. Donc c'est extrêmement facile à remarquer. Et à ce moment-là, si on réveille le sujet, qu'est-ce qui se passe ? Dans 85 à 90% des cas, il va vous raconter, avec beaucoup de détails, un rêve qui est la plupart du temps en couleur.
Qu'est-ce que vous appelez un rêve, Monsieur Jouvet? C'est un tableau ou bien c'est, disons, la durée de plusieurs tableaux dans un état particulier qui n'est pas le sommeil?
Il y a deux choses. Il y a ce que l'on observe en regardant, par exemple, l'enregistrement de sommeil. Maintenant, pour savoir ce qui s'est passé pendant cette période, il faut réveiller le sujet. Mmh. Si vous le réveillez après deux minutes, il y a peu de chance, il va vous raconter en général un rêve qui sera court. Si vous le réveillez à la fin des 20 minutes, il peut vous raconter une succession de plusieurs rêves. Donc la définition exacte, est-ce qu'il y en a des rêves qui durent 20 minutes? Bon, moi j'ai des sujets qui font des rêves qui vont à Paris, à pied, de Lyon à Paris à pied. C'est évident qu'en 20 minutes, c'est impossible. Donc là, il y a une condensation fantastique du temps. Oui.
Alors le rêve de celui qui veut interpréter le rêve d'un autre, c'est évidemment de pouvoir y entrer comme par effraction, sans besoin d'un récit, plus tard. Encore un Lyonnais, Bernard Lahire.
Michel Jouvet, je pense, a plus travaillé sur le sommeil que sur le rêve.
Oui.
Mais c'était déjà tout à fait important. Il a fait partie de ceux qui ont découvert ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, c'est-à-dire une période où on sait aujourd'hui que on rêve de manière très très intense quand on réveille les gens en train de dormir, ce que font certains neuroscientifiques, hein, que moi je n'ai pas la possibilité de le faire, mais quand on réveille quelqu'un en plein sommeil paradoxal, on est à peu près sûr qu'il est en train de rêver de quelque chose et il a beaucoup d'images qui lui viennent à l'esprit quand on lui demande de raconter ce qu'il voyait ou ce qu'il vivait dans son rêve. Et il a trouvé cette période-là, particulière au sommeil, mais après, on s'est rendu compte que, en fait, on rêve pendant toute la nuit, on s'en rappelle beaucoup plus quand on se réveille en état de sommeil paradoxal.
Qu'est-ce que les neurosciences nous apprennent du rapport du rêve et du sommeil ?
En fait, le rêve n'est qu'une forme d'expression particulière parce que, tout simplement, notre cerveau continue à fonctionner la nuit. Beaucoup de gens se représentent le sommeil comme un état de veille. On arrête tout et puis il n'y a rien qui fonctionne dans le cerveau. C'est pas du tout le cas. Et continuer à produire des images. Tout ce travail-là, en fait, ne cesse de se faire dans le cerveau. Et tant qu'un cerveau est vivant, il fonctionne. Voilà, c'est ça ce qu'on peut dire. Donc le rêve, c'est l'expression du fait que le cerveau fonctionne, y compris la nuit.
Les possibilités d'interaction immédiate entre rêveurs et neuroscientifiques se sont enrichies depuis l'époque du professeur Jouvet. Des rêveurs ont pu, par exemple, envoyer un signal après avoir réalisé en songe une tâche convenue à l'avance. Récemment, à l'Institut du cerveau à Paris, des chercheurs de l'INSERM ont pu poser des questions à voix haute à des rêveurs en obtenant des réactions sous forme de signes divers. Mais il s'agissait de rêveurs très expérimentés parce que la pratique de telle ou telle activité peut étendre certaines fonctions du cerveau, c'est le cas du rêve. Alors, de là à pouvoir enquêter en direct sur la nature du rêve de la personne qui partage votre lit, il y a de la marge.
Le professeur Jouvet était on ne peut moins freudien. Monsieur Lebrun, Bernard Lahire, un autre Lyonnais, interroge Freud du point de vue de la sociologie, sans chercher d'ailleurs à jeter le discrédit sur la psychanalyse.
Alors si on considère que le rêve est une activité individuelle mais intrinsèquement sociale, on peut l'ouvrir aux sciences sociales en effet. Alors précisons qui est Bernard Lahire. Il enseigne à l'École normale supérieure de Lyon. Il est connu par de nombreux travaux sur ce qu'on appelle la réussite scolaire, l'illettrisme, les pratiques culturelles. Son maître a longtemps été le sociologue Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu s'intéressa aux neurosciences. Il convenait que le fonctionnement cérébral avait sa part dans l'analyse des comportements humains. Quant aux explications à chercher dans les sciences sociales, Bourdieu en appelait, comme Lahire, au plus grand nombre de méthodes possibles, à l'intégration des différentes démarches. Bernard Lahire préfère d'ailleurs parler de la science sociale au singulier. Cet appétit pour tous les savoirs guidait d'ailleurs Freud, encore une révérence au vieux maître.
Je ne suis pas en combat contre Freud. Moi, je pense que Freud était un grand savant. Il se présentait comme un conquérant, un conquistador. Donc, il a fait un peu feu de tout bois, comme on dit quand on commence une science. Je pense que les psychanalystes aujourd'hui devraient être beaucoup plus dans l'esprit de Freud de l'époque, c'est-à-dire essayer de rouvrir des choses qui ont été un peu fermées depuis les grands noms de la psychanalyse. La psychanalyse devrait, comme toute science, se laisser se transformer elle-même en contact avec toute la richesse des savoirs qui sont produits sur le rêve, sur l'inconscient, etc.
Exemple, si on fait de l'anthropologie, on constatera vite que les rêves des anciennes sociétés closes sont déterminés par leurs mythes. Mieux que si les mythes créent les rêves vérifient les mythes. Et si on fait maintenant de la sociologie, on ne résiste pas à l'appliquer au milieu dans lequel intervient Freud autour de 1900, soit la haute société de Vienne, capitale de l'Empire d'Autriche-Hongrie, résidence, disait Freud, d'un souverain déjà mort et d'un dieu encore à venir.
Je pense qu'il a eu affaire à des personnes d'un certain milieu social, beaucoup à des femmes qui avaient eu des difficultés d'ordre sexuel parce qu'elles étaient abusées, harcelées, etc. Il en parle très peu d'ailleurs comme ça, mais c'est le fond de beaucoup de cas de femmes dites hystériques à l'époque. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout d'hystérie, mais Freud est parti de ces cas de femmes dites hystériques. Il travaillait sur l'hystérie et il s'est rendu compte que dans les rêves, il y avait des éléments qui lui permettaient de comprendre ces cas-là. Mais si vous voulez, on ne peut pas reprocher à Freud d'avoir travaillé sur des patients particuliers ou sur un milieu social particulier. C'est surtout qu'il a généralisé ce qu'il découvrait à l'époque pour des types particuliers de problèmes qui apparaissaient dans les rêves à l'ensemble des rêveurs et rêveuses. Et c'est ça qui est problématique. La question, par exemple, de la sexualité n'est qu'une question parmi d'autres. Ça n'est pas la question. Et je comprends que Freud ait mis l'accent là-dessus, c'est une dimension qui est fondamentale, mais elle n'est pas la seule.
Bon, alors, rappelons que la sexualité, pour Freud, c'était la libido sous tous ses aspects, bien davantage que la génitalité. Mais enfin, si l'importance de la sexualité peut être relativisée selon les milieux sociaux ou les époques, la censure va-t-elle garder le rôle central que Freud lui conférait ? Bernard Lahire tend à penser, au contraire, que le rêve va droit au but des préoccupations sociales du rêveur, qu'il expliciterait les problèmes qu'il vit le jour en société.
Je pense que, alors là c'est ma grande différence par rapport à Freud, je pense que la censure, elle est la plus faible dans le rêve. La censure, nous la vivons en permanence dans la vie sociale. Ce sont des petites ou des grandes censures, mais que dans le rêve, je me parle à moi-même. Donc je peux dire n'importe quoi, je peux dire des choses taboues, il n'y a pas de censure en fait.
Alors dites-moi Bernard Lahire, vous dites le rêve va droit au cœur des préoccupations. Le rêve ne fonctionne pas à la censure, il fonctionne à l'économie.
Oui, c'est ça. Il fonctionne à l'efficacité. Alors c'est une efficacité avec beaucoup d'implicite parce que si vous voulez, comme je me parle à moi-même, je n'ai pas d'auditoire. Dès que, et ça tous les linguistes le savent, les linguistes ont beaucoup travaillé là-dessus. Moi je me suis appuyé sur les travaux de linguistique, de sociolinguistique, qui montrent que plus vous êtes proche de quelqu'un, plus l'implicite est grand. C'est normal, vous partagez des expériences communes, des savoirs en commun, et donc vous n'êtes pas obligé même de vous parler beaucoup. Il suffit d'avoir quelques regards, quelques sourires, etc. On peut se comprendre à demi-mot, comme on dit. Alors, vous imaginez quand vous vous parlez à vous-même, vous partagez 100% des expériences avec vous-même, puisque voilà, il n'y a pas d'écart entre celui qui exprime et celui qui reçoit le message. Donc, on a un type de production imaginaire qui est lié à un fort degré d'implicite. Et c'est ça qui caractérise le rêve. Donc, le rêve est à la fois très efficace et complètement bizarre, parce que il faut arriver à reconstruire l'ensemble des éléments qui sont implicites dans les différents éléments du rêve pour arriver à recomposer un peu l'image d'ensemble.
Bernard Lahire a publié deux volumes sur l'interprétation sociologique du rêve, et dans le second qui vient de sortir aux éditions de La Découverte, beaucoup d'exemples sont collectés et interprétés. Les milieux de prédilection où il opère sont très différents de ceux de Freud. Ce sont souvent des membres des professions intellectuelles qui l'interrogent. Ils ont connu un parcours d'ascension scolaire dont les résultats sont toujours fragilisés par l'expérience. Ainsi de Laura. Elle a décroché un CAPES, elle vise l'agrégation, concours sélectif qui se tient en des journées décisives.
Un appariteur nous demande si quelqu'un d'entre nous veut se maquiller avant d'aller devant le jury. J'accepte, me trouvant pâle. On me met du fard à joues, mais il s'agit plus d'une matière comme de la peinture à l'huile, avec aucune nuance et des couleurs criardes. On commence par les joues, puis un fond de teint sur tout le visage. Je trouve cela horrible et demande à ce qu'on arrête. Je veux me démaquiller car je me sens plâtré. Je sens bien que ce maquillage est impossible à enlever. Un jury me conseille d'aller dans un bassin, une sorte de courant d'eau en forme d'arc de cercle. J'y vais en me disant que mes vêtements seront mouillés, mais que ce sera ça ou le visage plâtré. Je plonge ma tête, essayant de me nettoyer, mais rien ne s'en va, car il n'y a que de l'eau. Je sors et demande au jury de pouvoir me laver, il me dit que c'est interdit. Je lui demande alors d'utiliser simplement les toilettes juste à côté afin de me laver avec du savon pour les mains. Il accepte.
Et maintenant, l'interprétation par Bernard Lahire.
Dans le cas de Laura, son père est ouvrier, sa mère était aide-soignante à l'époque. Et elle est ce que l'on appelle quelqu'un en réussite scolaire, qui a accédé à l'université et qui est en train de préparer un concours d'entrée, un concours de l'enseignement. Voilà. Dans cette situation-là, elle vit une tension qui est propre à son parcours de vie. C'est tout le problème des transfuges de classe qui sont, comme disait Richard Hogarth, un intellectuel anglais, lui aussi autodidacte, grand transfuge de classe, il disait « j'avais le cul entre deux chaises ». C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on se sent bien, on peut se sentir bien dans tous les cas, et en même temps pas complètement bien, et c'est ça que ses rêves, en partie, disent. Aussi cette incertitude sur la possibilité de réussir, parce que son parcours n'est pas terminé. Et donc la tension particulière de quelqu'un qui n'est pas du tout sûr d'elle, qui doute encore de ses capacités, qui a le syndrome de l'imposteur, comme on dit. Et tout ça est mis en scène dans ses rêves.
Thank you.
C'était Rêverie de Debussy. Pas si loin de la mer, dirait la psychanalyste Sabine Procoris.
Quand on entend le bruit d'une vague, on entend en réalité, sans le savoir, tout le bruit de chaque goutte qui s'entrechoque avec les autres. Sauf qu'évidemment, on n'en a pas conscience. Donc ça, c'est confus, en réalité. Mais si on entend le bruit de la vague, vraiment le bruit de la vague, c'est parce que on entend confusément tout dans le détail. Et en fait, ce qui est intéressant avec la psychanalyse, c'est qu'au fond, c'est un peu, pour prendre une image, c'est un peu comme les focales au cinéma. C'est-à-dire, vous êtes à certains moments sur le gros plan du détail. Sauf que ce détail, il est toujours en mouvement. Et ce qu'on doit capter, c'est pour ça que je dis plutôt capter que... Freud recommandait de ne pas prendre de notes pendant les séances. Parce qu'il faut capter ce qui est entre, et pas seulement les contenus. Voilà, l'intérêt de la psychanalyse, c'est le gros plan, comme au cinéma. Mais le gros plan ne signifie pas qu'il n'y a pas de hors-champ. Le gros plan, ce n'est pas la totalité du champ. Et un très beau gros plan, un gros plan réussi au cinéma, c'est quand il permet de capter quelque chose du hors-champ. Ou le gros plan reflète d'une manière ou d'une autre ce qui est autour. Sinon, c'est fermé, quoi. C'est pas intéressant. Donc, je crois que c'est ça l'intérêt de la psychanalyse, c'est le gros plan sur le singulier, mais qui nous donne un accès indirect au hors-champ.
Mais, monsieur Lebrun, le hors-champ du rêve, n'est-ce pas tout simplement l'histoire?
Ah, l'histoire maintenant. L'historien, qui est un ogre, ne va pas se priver des rêves d'une société. Il va faire l'hypothèse qu'on peut les interpréter comme ceux d'un individu. Alain Besançon avait commencé à faire quelques analyses intéressantes des rêves chez les Russes, Pouchkine, Dostoïevski. On aurait aimé que, spécialiste du totalitarisme soviétique, il ait prolongé jusqu'à l'époque stalinienne. On a, en revanche, un livre qui a fini par provoquer un très grand écho et qui est consacré aux rêves sous le Troisième Reich. La journaliste Charlotte Berhardt les avait collectés avant de devoir s'exiler aux États-Unis. La première publication qu'elle en fait en revue eut lieu en 1943. Un livre paru enfin en 1966, traduit en français en 2002. En Allemagne nazie, la crainte de la surveillance diurne parcourt les rêves nocturnes. Une image fréquente, le rêveur est dans son lit, dans sa chambre, mais il n'y a plus de mur pour le protéger. Les chefs du nazisme apparaissent aussi souvent. Freud disait que les potentats détestaient les métamorphoses que peut provoquer le rêve. Ici, dans ce songe d'un directeur d'usine social-démocrate en Allemagne nazie, Goebbels semble impavide.
Goebbels vient dans mon usine. Il fait se ranger le personnel à droite et à gauche. Je dois me mettre au milieu et lever le bras pour faire le salut hitlérien. Il me faut une demi-heure pour réussir à lever le bras, millimètre par millimètre. Goebbels observe mes efforts comme s'il était au spectacle, sans applaudir ni protester. Mais quand j'ai enfin le bras tendu, il me dit ces cinq mots. Votre salut, je le refuse. Fait demi-tour et se dirige vers la porte. Je reste ainsi dans mon usine, au milieu de mon personnel, au pilori, le bras levé. C'est tout ce que je peux faire physiquement. Tandis que mes yeux fixent son pied beau pendant qu'il sort en boitant, jusqu'à mon réveil, je reste ainsi.
Bernard Lahire.
Même dans les rêves, ce régime autoritaire travaillait les gens. Ils étaient hantés par la perte de liberté, par des formes d'humiliation, par des angoisses de nature extrêmement différente. Et elle a voulu témoigner de ça par un recueil. C'était pas du tout une scientifique, c'est pas quelqu'un qui voulait changer les règles ou les méthodes de l'interprétation des rêves, mais elle voulait témoigner de la force du politique au plus intime, au cœur de l'intimité de chacun. Et en ça, je crois qu'elle a rendu service, parce que je pense qu'elle a montré tous les aspects qui peuvent être tout à fait politiques des rêves. Et elle a beaucoup résisté à des interprétations psychanalytiques de ce recueil de rêves, parce que elle craignait qu'on ramène justement à de l'infantile, à du familial, à du sexuel, etc., des choses qu'elle situait du côté, évidemment, du politique. Et je pense qu'elle avait en partie tort. Et d'ailleurs, dans une partie des rêves qu'elle propose, il y a des mélanges entre des plans scolaires et politiques, entre des plans familiaux et des plans politiques. Donc tout ça est en lien. Voilà.
Sabine Procoris.
Ce qui est un peu différent dans le livre de Bérard de ce qui se passe quand vous écoutez un analysant, c'est quand vous écoutez un analysant qui vous amène un rêve ou n'importe quoi d'autre, vous vous dites pas « Ah, qu'est-ce que, je sais pas moi, tel si tu me mettons le Covid, puisqu'on est là-dedans, produit sur les rêves des gens ?» Forcément, ça produit des tout produit des choses hein, sur les rêves des gens. Mais elle a quand même, elle a une perspective tout à fait canalisée, si vous voulez. Et cette canalisation diffère évidemment du point de vue de la méthode. On ne canalise pas dans le travail analytique. Il n'y a pas de canalisation a priori, puisque la règle c'est l'association libre et l'écoute également flottante, c'est-à-dire tout à valeur égale a priori. Après ce qu'on en fait, c'est autre chose. Donc quand même, ça fait apparaître que d'une certaine manière, effectivement, les situations politiques, forcément, pénètrent de façon particulièrement, enfin, je veux dire, cassent les défenses et les parexcitations. Et c'est un fait. Moi, j'ai remarqué, j'ai eu plusieurs personnes dans mes analysants au cours de, ça fait plus de 30 ans que je travaille, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des gens, alors je parle d'une part, des gens qui descendent du génocide arménien. Alors là, c'est très particulier et ça n'a rien à voir avec les descendants de la Shoah, parce que ce qui s'est passé pour ces personnes-là, c'est qu'il n'y a pas eu il y a toujours une négation par l'État turc de ça, et il n'y a pas eu de procès de Nuremberg, il n'y a pas eu tout ça. C'est-à-dire, c'est un génocide qui est resté dans le déni, même si certains pays l'ont reconnu, etc., etc. Donc c'est pas du tout pareil comme situation pour les générations suivantes. Et ça a des effets psychiques que j'ai remarqués dans les symptômes et dans les rêves qui sont communs à, quelle que soit leur différence singulière, à ces personnes-là. Bon. Maintenant, j'ai remarqué aussi dans ma pratique, j'ai eu souvent des gens qui avaient passé leur enfance dans des pays d'Europe de l'Est, Allemagne de l'Est, Roumanie, surtout Roumanie. Et j'ai remarqué quand même chez ces personnes-là des traits communs aussi, et notamment des gens qui, eux, d'une part, avaient passé leur enfance là-dedans, ou bien étaient descendants, plus ou moins directs, de gens qui avaient passé leur enfance dans ces régimes-là. Et ce que j'ai remarqué, qui était très à l'œuvre dans leur vie psychique, aussi bien dans leur rêve, voire une fois de quelqu'un qui m'a fait quasiment un délire, en pensant qu'il y avait des micros dans mes murs. Parce que, alors, j'étais jeune analyste à cette époque, et j'avais pas compris, j'étais un peu bête, hein. Et à chaque début de séance, il me demandait si je me souvenais de ce qu'il avait dit. Et moi, bêtement, je disais, mais oui, pour le rassurer, c'était idiot. Et à un moment donné, il a développé un délire paranoïaque, en pensant que le KGB avait mis des micros dans mes murs, alors que c'était pas du tout un type psychotique, hein. Mais il a fait un épisode paranoïaque. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi un peu, je me suis dit, bah bon sang, mais c'est bien sûr. Donc j'ai arrêté de lui dire que je me souvenais, je lui ai même dit parfois ce qui était vrai, quelquefois que non, je ne m'en souvenais pas.
Parce que dans les
et le délire s'est arrêté tout de suite. Et dans ce que j'ai remarqué, c'est que c'était souvent chez ces gens-là, chez ces personnes-là qui ont vécu ces enfances-là, ou dont les parents ont vécu ces enfances-là, il y a des traits ou des fragilités de type paranoïaque.
Mais l'idée du micro dans les murs, ou bien l'idée de la disparition des murs, c'est caractéristiques des rêves.
Exactement.
Des gens qui ont vécu dans des systèmes totalitaires.
Exactement. Et d'ailleurs, chez Bérard, il y a des choses de ce genre. Et il y a aussi une culpabilité absolument. C'est quand même dans mon souvenir, il n'y a pas un rêve qui ne soit pas un rêve de persécution par soi-même, je veux dire, par sa propre culpabilité. Pas seulement par le régime, mais par sa propre culpabilité. Parce qu'on est dans des situations où le régime totalitaire entre en collusion avec ce qui, dans la vie psychique, est le plus mortifère du surmoi. C'est-à-dire ce qui est totalitaire, ce qui est persécuteur, et c'est qui est éventuellement assassin aussi.
L'événement, qui survient au rêveur le jour, s'éloigne à mesure que les nuits passent. Mais il y a aussi l'événement durable, monsieur Lebrun.
Qu'on peut distinguer en effet de l'événement qui nous est propre, lequel a joué un rôle d'accélérateur, d'intensificateur, dans notre cas spécifique. Alors l'événement global, qui bouscule, redistribue la société, les nations, le monde, ça c'est une autre affaire. Le philosophe Emmanuel Mounier disait que cet événement-là, c'était le maître de notre action. Il peut aussi devenir le maître de nos rêves. Ainsi, dans les sombres temps que nous vivons, temps de terrorisme...
J'étais sur mon cheval, dans mon club d'équitation que je connais depuis des années. Tout était très très familier, j'avais pas du tout peur, je me sentais très en confiance, ma mère était là, enfin... Et j'entends toujours ces bruits de Kalachnikov dans l'allée en terre, enfin c'est au plein milieu de la Beauce française, donc j'entends quand même les bruits de Kalachnikov au loin. Mon cheval a très peur, moi j'ai très peur, et je baisse les yeux et je me rends compte que mon cheval porte une ceinture d'explosifs.
J'étais dans un pays étranger qui ressemblerait au Cambodge, même si j'y suis jamais allée. Et je me trouve là-bas avec ma famille, ma mère et mon frère au moins, et peut-être d'autres personnes, mais j'ai du mal à identifier. Et on marche dans des rues qui sont complètement plongées dans le noir. Et on marche et j'ai l'impression que c'est la journée, il y a personne, mais pourtant il fait très noir, il y a uniquement des lampadaires comme ça, tous les 10 mètres à peu près. Et je dis à ma mère, mais comment ça se fait qu'ici, il n'y ait pas de lumière? Et elle me dit, ben, ici, c'est comme ça. Et s'il n'y avait pas ces lampadaires, on serait complètement plongé dans l'obscurité.
Temps de confinement.
Dans ses rêves, ce sont des trains qui s'arrêtent ou n'arrivent pas à destination. Des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Un sentiment d'égarement, de panique, de catastrophe domine. Ne pas savoir où l'on va, c'est un sentiment très présent, très fort. Le mot « guerre » d'Emmanuel Macron, mais aussi peut-être ce moment historique, semble réactiver des souvenirs de la période de la Seconde Guerre mondiale. Des familles séparées, des gens ou des enfants qui sont laissés sur le quai. Comme dans ce rêve de M. G. Il est dans un train qui file. Une annonce répète en boucle que « le train ne fera aucun arrêt jusqu'à destination ». Et il voit au fil des gares ses enfants sur le quai, puis ses parents, des proches, tous avec des valises qui restent plantées là. « Je veux casser les vitres avec mes mains, je n'y arrive pas !» Enfin, la chose qui m'a le plus frappée dans ce début de collecte, c'est aussi la question des papiers, du contrôle. Reviennent très souvent cette histoire de papiers que l'on doit montrer. Ces papiers qu'il faut montrer deviennent par exemple des journaux intimes. À ceci près que les feuillets s'envolent, se mélangent, se perdent. Il faut alors les remettre dans le bon ordre, retrouver la page perdue. Cela touche vraisemblablement une peur fondatrice, archaïque, d'être contrôlée, qui touche elle-même à la peur d'être pris en flagrant délit de désirer pendant ce confinement. Car quand on y songe, le principe de l'attestation atteint quelque chose de très intime. Il est très intrusif de devoir faire soi-même la preuve de légitimer son désir de sortir. Est-ce pour répondre à un besoin de première nécessité, mais alors lequel, ou un désir de sortir, de courir, de prendre l'air? Ces rêves de feuillets perdus qu'on ne retrouve plus me font penser à la chanson de Léo Ferré, « Poète, vos papiers ». Comme si nos rêves traduisaient l'idée que notre créativité et notre intimité sont ici heurtées. Transgressé par tous ces contrôles, aussi donné soit-il d'un point de vue sanitaire.
Les gens rêvaient, par exemple, de sortir et d'avoir peur soit d'être touché par quelqu'un, donc la peur du contact, ou bien d'avoir oublié ses papiers. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait neuf. C'est vrai que du jour au lendemain, nous avons eu à justifier de notre existence dans l'espace public, dans les moments de sortie. Les gens aussi avaient peur d'oublier leur masque. Ils faisaient des sortes de cauchemars liés au fait, voilà, de se retrouver dans la rue et de se dire mais il me manque quelque chose, et se rendre compte qu'ils n'ont pas de masque, et d'avoir peur de la police ou la peur d'ailleurs d'attraper le virus. Donc c'est tous ces éléments qui viennent hanter les rêves des gens pendant cette période de confinement. Après, ce qui est très difficile, c'est que dans chaque cas, la période de confinement vient réveiller des expériences qui sont personnelles et qui sont propres à chacun, même si nous partageons en partie certaines expériences. Et du coup, c'est très difficile parce que il faut quand même respecter le caractère un peu singulier de chaque rêve et de chaque rêveur pour arriver à comprendre ce qui fait écho dans la situation présente particulière qu'est le confinement à des expériences passées et plus ou moins traumatisantes que les gens ont vécues.
Dans un cadre intrinsèquement social des expériences individuelles. On a compris qu'il ne s'agit pas tant de faire entrer le rêve au chausse-pied dans le champ des sciences sociales telles qu'elles sont, mais peut-être de les transformer, quitte à inventer de nouvelles disciplines, de nouvelles techniques, un nouveau métier, Bernard Lahire.
C'est-à-dire qu'en fait, on voit le déplacement aujourd'hui des objets. Ce qui n'intéressait pas l'historien il y a 50 ans est au cœur des interrogations contemporaines. Ce qui n'intéressait pas du tout le sociologue, parce que il travaillait plutôt sur des groupes ou des institutions ou des grands mouvements, eh bien a intéressé de plus en plus la sociologie, c'est-à-dire une sociologie des cas particuliers, des cas singuliers, parfois atypiques statistiquement. Et bon, moi, je travaille sur le rêve, ce qui est une manière d'étendre le règne, d'une certaine façon, de la sociologie ou des sciences sociales plus généralement. C'est-à-dire que tout le monde a le droit, les psychologues, de travailler sur des objets de sociologues et les sociologues de travailler sur des objets de psychologues. Je crois que nous devons faire ce travail-là.
Vous allez devenir un bureau d'interprétation des rêves. On vous demande de plus en plus d'interpréter.
Alors beaucoup de gens me demandent effectivement. Bon, je ne suis pas, je n'ai pas de cabinet. Je pourrais. Hein. Et la question d'ailleurs se pose. La question se pose actuellement de la possibilité de professionnaliser la discipline sociologique d'une autre manière que les voies classiques de l'enseignement ou de la recherche. Et notamment des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, des doctorants, des doctorantes qui pourraient être intéressés par l'idée de créer quelque chose comme un métier de socio-analyste. Voilà, c'est quelque chose qui est dans l'air. Moi, j'ai une pulsion scientifique tellement forte que c'est très difficile pour moi de ne pas assouvir cette pulsion qui est purement scientifique, on va dire.
La pulsion d'explicitation. L'explicitation des problèmes du rêve a des effets thérapeutiques et politiques. Mais il ne faut pas oublier l'inverse. Pour Sabine Procoris, le rêve singulier a un effet sur le monde.
Je mesure à quel point, et je trouve ça d'ailleurs fascinant, à quel point la vie psychique singulière absorbe et modifie et transforme le monde dans lequel nous baignons. Et non seulement l'absorbe et le métabolise, mais également interagit de façon involontaire, inconsciente, sur le monde. Enfin, je pense à cette phrase de Maeterlinck que j'avais entendue dans une pièce mise en scène par Régis, où Maeterlinck disait que on ne sait pas jusqu'où l'âme s'étend autour des hommes. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun d'entre nous, c'est une petite une version du monde, on va dire. Un peu l'image qui me permettrait de comprendre ça, c'est l'image de la fugue en musique. C'est-à-dire, il y a quelques motifs, mais ils peuvent être indéfiniment interprétés, modifiés, transformés, mais ce sont toujours des motifs communs, en réalité. Voilà.
Motifs qui sont souvent des images. Ensuite, le récit s'en fait par des mots. Et les mots passent souvent par la voix qui peut trahir, travestir, cet intime extérieur qu'est la voix. Ben, c'est la dernière question qu'on peut poser à l'issue de ces deux dossiers d'intelligence service.
Il y a quelque chose de très sensible, on va dire, qui est tout ce qui passe par la voix, en fait. Les silences, d'ailleurs le silence, les silences, les respirations, et alors les voix, c'est frappant. Moi, je me suis rendu compte à quel point quelque chose des modifications psychiques est perceptible souvent autant dans les rêves, dans la transformation, dans la façon de rêver, que dans les transformations que vous pouvez entendre qui sont très ténues dans la voix de quelqu'un. Alors, il y a par exemple des personnes dont la voix pendant un certain temps, est totalement étranglé. C'est-à-dire, vous avez l'impression que là, ça passe par un trou de souris, quoi. Et puis, à un moment donné, la voix change. Moi, j'ai remarqué que les premières perceptions d'un changement, c'est des perceptions que j'ai eues par l'oreille, en fait, au sens de quelque chose a changé dans la voix. Quelque chose a changé dans la voix, dans le rythme, dans la respiration. Il y a des gens qui parlent, on dirait qu'ils sont en apnée, ou qu'on les poursuit, ou qui parlent pour que vous ne les entendiez pas. Donc, c'est pas qu'ils chuchotent, c'est qu'ils murmurent. Ou qui parlent avec une voix tellement stridente à certains moments que ça vous crève, ça vous perce les oreilles, vous pouvez plus écouter. Et je me souviens, alors là, ça fait longtemps, c'est terminé, mais j'ai eu pendant quelques années quelqu'un, je ne supportais pas la voix de cette personne. Mais je ne supportais pas, c'est-à-dire, dès qu'elle ouvrait la bouche, c'est un peu gênant, j'avais envie de lui dire « tais-toi ». Je ne l'ai jamais fait, mais je ne supportais pas, j'ai compris finalement pourquoi je ne supportais pas ça, au bout d'un moment, lorsque quelque chose a changé. C'est-à-dire, c'était une personne qui avait ce que j'appelle une voix postiche. C'est-à-dire, où quelque chose sonnait tellement faux, que, en fait, ça m'insupportait, ça m'empêchait d'écouter. C'est-à-dire, c'était une voix faite pour que je n'écoute pas.
Nous allons rester dans cet inachevé. C'est normal dans le domaine du rêve. D'autant que 95% de notre activité psychique, elle est oubliée au réveil. Le matin, la plupart de nos rêves se sont envolés au chant du coq de la réalité. Remerciements à Bernard Lahire qui a publié à la découverte l'interprétation sociologique des rêves, à Sabine Procoris, l'insaisissable histoire de la psychanalyse, aux presses universitaires de France. Vous avez entendu des extraits de La Marche du siècle avec Jean-Marie Cavada et de l'émission de Claire Richard sur Arte Radio. Les lectures, Hugues Kester, Catherine Bissière, le son, Frédéric Kérou et à la maison de la radio et de la musique, Kevin Delcourt. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin, Franck Olivard, et la réalisation, Étienne Bertin.